l'Institut français de l'éducation et le CAREF organisaient le 16 juin 2025 une journée d'études pour esquisser un bilan, 5 ans après, des effets de la crise sanitaire sur l'éducation. Intitulée « La crise sanitaire à l'école et à l'université, qu'en reste-t-il 5 ans après ?», il s'agit à la fois de constater l'émergence de pratiques provoquées par l'urgence de la crise, mais aussi d'en interroger la pérennité et le succès, comme les limites. La crise sanitaire a-t-elle réellement changé les pratiques pédagogiques ? A-t-elle touché à l'organisation de l'école ? A-t-elle provoqué une redéfinition des parcours d'études ? La prise de conscience des urgences, telles que la santé mentale ou les situations de précarité, a-t-elle été partagée et durablement accompagnée ? Avons-nous assisté à une transformation réelle du système éducatif sous le coup de la crise sanitaire, ou bien à la capacité d'inertie du système pour ne pas remettre en cause les habitudes ou routines en place ? Pour répondre à ces questions, Cadécole est allé tendre son micro aux participantes et participants des 4 tables rondes organisées lors de cette journée d'études. Dans cet épisode, nous accueillons Pascal Mériot. Bonjour Pascal Mériot.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur d'histoire géo et chargé de projet recherche et expérimentation à la DRAN. Pendant le confinement, la maîtrise des pratiques numériques par les enseignants et les enseignantes a été un enjeu pour le maintien du lien avec les élèves. Est-ce que vous, à la DRAN, vous avez une forme de visibilité sur les acteurs et actrices qui ont été très actifs ? Est-ce que vous avez une visibilité, voilà, c'est ça, du bilan de ce confinement sur les pratiques numériques des enseignants et des enseignantes ?
C'est difficile de faire un état des lieux de l'impact qu'a eu la crise sanitaire sur les pratiques numériques des enseignants, de la transition numérique à l'œuvre, avec tout un tas d'accélérations. Je pense récemment, par exemple, à l'arrivée des intelligences artificielles, notamment. Mais on peut quand même noter que, d'une part, en parlant d'acteurs, la DRAN, en tout cas sur l'Académie de Lyon, a joué un rôle majeur, quasiment H24, pour accompagner les enseignants, accompagner au mieux les chefs d'établissement dans cette période d'urgence. Également aussi accompagner les réflexions avec les collectivités territoriales qui sont quand même en charge des infrastructures. On sait ô combien la disponibilité en fait des infrastructures, c'est-à-dire par exemple des systèmes d'environnement numérique de travail, des ENT ou de logiciels de suivi scolaire comme Pronote par exemple, étaient absolument fondamentaux pour permettre de continuer d'avoir un lien non seulement avec les élèves et les familles, mais également aussi d'avoir un lien au sein de la communauté éducative entre les différents personnels. Et donc il y a eu un gros travail d'accompagnement quotidien qui a été mis en place par la DRAN. Si on réfléchit après en termes de pérennité, je pense qu'il y a des éléments quand même assez importants en fait, qui peuvent être mesurés. D'une part, la mise en place dans tous les établissements de manière obligatoire de plans de continuité pédagogique qui invitent les établissements à davantage finalement penser leur politique numérique dans le quotidien et dans ce type de situation. Le second élément, il me semble, c'est que une grande partie des enseignants qui jusque-là étaient parfois en difficulté finalement avec un certain nombre de ces outils, ne percevant pas toujours aussi les enjeux en fait qui pesaient déjà sur cette transition numérique et qui faisaient que, à mon sens, peut-être le numérique était un petit peu un impensé dans l'école. Mais c'est devenu quelque chose d'important, de nécessaire. Et donc avec peut-être une prise de conscience de la nécessité de se former, et puis en même temps un petit peu dans une obligation de devoir prendre en main en fait ces différents outils. Et donc on peut percevoir aujourd'hui davantage peut-être de maîtrise des environnements numériques de travail. La visio, c'est entièrement est devenu quelque chose de transparent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça ne pose plus aucun problème à aucun enseignant aujourd'hui. Et puis on voit aussi que du côté, on va dire, plus institutionnel, là aussi il y a des choses qui sont pérennes parce que le ministère a, je pense qu'il en avait déjà conscience, hein, mais il y a eu une espèce d'urgence opérationnelle à mettre à disposition de la communauté éducative des outils. Je pense que le Covid a accéléré par exemple de manière assez forte la mise en place par exemple de la galaxie Apps Éducation, qui permet aux enseignants d'avoir aujourd'hui des solutions de visio souveraines, fonctionnelles, même adaptées, parce qu'on voit bien que ces produits sont en train d'évoluer pour s'adapter au mieux aux besoins des enseignants. Et donc, je pense que la crise, elle a joué à ce niveau-là, en tout cas, un rôle d'accélérateur technologique, comme parfois l'ont joué les guerres mondiales, par exemple, sur ces aspects-là.
Oui, c'était un peu le sens de ma deuxième question, c'était de savoir si ce que vous observiez comme pratique, c'était des pratiques qui étaient un peu déjà là, et qui avaient été accélérées, mais vous avez en partie répondu, ou s'il y avait vraiment eu une augmentation en compétences chez les collègues, ou si c'était déjà des collègues qui étaient plutôt déjà compétents, intéressés, au-delà de la simple nécessité d'utiliser l'espace numérique de travail, qui effectivement, vous l'avez dit, qui est devenu une nécessité. Est-ce qu'il y a eu une augmentation en compétences des collègues, ou est-ce que c'était déjà des gens qui s'intéressaient avant et que ça a juste accéléré le temps qu'ils pouvaient octroyer en fait, à ce développement de compétences?
Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt vraiment la prise de conscience en fait, des enjeux de la question numérique et de la place de ces outils dans leur environnement professionnel qui s'est transformé. Il y a des enseignants qui étaient déjà formés et qui utilisaient déjà ces outils et qui ont servi de point d'appui pour les autres. Mais la grande majorité d'entre eux qui n'avaient pas véritablement intégré ces outils dans leur professionnalité se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre face au mur. Et donc, parfois désemparés et le vivant peut-être très mal dans la situation. Mais aujourd'hui, pas besoin de convaincre de la nécessité d'intégrer dans son usage professionnel. Je le distingue peut-être de la question de l'usage pédagogique, hein, mais on va dire dans son usage professionnel.
Oui, c'est pas la même chose de.
Voilà, c'est pas tout à fait pareil que de travailler avec les élèves en classe et d'intégrer les outils numériques avec eux pour développer chez les élèves des compétences numériques. C'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, du point de vue de l'enseignant, dans son travail de préparation, dans son travail aussi avec l'administration, on n'a plus besoin aujourd'hui en établissement, entre guillemets, d'accompagner les collègues sur, je ne sais pas, comment est-ce que j'envoie un email.
Oui, parce que j'ai souvenir effectivement de collègues qui ne savaient pas
comment est-ce que je me, voilà, comment est-ce que je me connecte à une visio. Ces éléments-là, aujourd'hui, ils sont été pleinement intégrés, mais au même titre, si on se fait un tout petit peu d'histoire, lorsqu'on a eu le passage au bulletin numérisé, il y a eu toute une phase de transition où vous aviez en salle des profs à la fois des collègues qui allaient sur l'outil numérique, mais on avait conservé le bon vieux bulletin papier, etc. Et puis, à un moment donné, on a décidé d'un coup d'un seul de dire « bon, stop, ça suffit, cette hybridation n'est plus possible ». Et donc, tout le monde passe au bulletin numérique. Et en fait, aujourd'hui, plus personne, y compris les plus rétifs ou les plus en difficulté vis-à-vis des outils numériques, ne reviendrait à avant au bulletin papier. Et donc, on voit bien que là, il y a une maîtrise, en tout cas, des outils qui a été accélérée par cette situation-là. Après, je ne crois pas que d'un point de vue pédagogique, pour le coup, il y ait eu une profonde transformation.
C'était ma dernière question, effectivement. Vous aviez fait la distinction entre l'usage nécessaire en fait, du numérique et l'usage plutôt pédagogique pour développer des compétences chez les élèves, qui en fait ont aussi manqué pendant la crise. Et du coup, est-ce que ça, en fait, vous venez de répondre, ça, par contre, vous trouvez que ça ne s'est pas autant développé que prévu ou que
espéré. Non, en fait, les études, si vous prenez par exemple quelques études récentes de l'ADEP qui interrogent régulièrement les pratiques enseignantes avec les numériques, en fait, on voit bien que cette intégration-là ou cette appropriation des outils dans le cadre pédagogique augmente très peu. C'est-à-dire que les enseignants utilisent énormément le numérique pour eux, mais encore aujourd'hui, relativement peu. Et la progression n'est pas énorme, hein, relativement peu, avec leurs élèves. Je crois aussi qu'on n'a pas beaucoup capitalisé, parce que peut-être on n'a pas pris le temps en fait, d'échanger et d'en discuter, justement de la place de ces outils pour chacun. Je pense par exemple qu'on ne s'est pas posé de questions sur la déconnexion, par exemple. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à... quand est-ce que chacun, le prof, l'élève, la famille, a le droit d'être déconnecté? Est-ce que, par exemple, il est bon qu'un prof envoie un devoir à ses élèves un samedi ou un dimanche? Or, ça se fait dans les pratiques. Et ça, c'est des questions qu'on aurait pu être amené à se poser. On ne s'est pas non plus beaucoup posé de questions, je trouve, ou pas suffisamment, et peut-être pas suffisamment collectivement, de questions sur est-ce que faire classe à distance avec des outils numériques, c'est faire classe en présence. Or, personnellement, je ne pense pas. Ça implique de repenser, de redéfinir certains des gestes professionnels qu'on a en présence et de penser, du coup, l'enseignement à distance. Et de fait aussi, on n'a pas beaucoup, du coup, réfléchi à que cette situation n'aurait pas été un moment pour repenser l'architecture scolaire en termes de temps et d'espace, Il y a la Convention citoyenne sur le temps scolaire qui pourrait être très intéressante sur la question. Mais par exemple, c'est des choses, je ne pense pas que dans les établissements, on ait suffisamment pris le temps collectivement pour se mettre autour d'une table et pour pouvoir y réfléchir. On peut aussi évoquer quelque chose qui me semble fondamental, c'est d'envisager la fracture en fait, aussi numérique qui existe. Et en particulier, comment est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on adapte nos outils à l'outil essentiel de l'élève qui est le téléphone portable. Or, vous avez encore aujourd'hui des environnements numériques de travail qui ne sont pas responsives. Or, vous avez des élèves, et ça, le Covid l'a montré, vous avez des élèves qui ne sont pas équipés, hormis potentiellement cet accès à ce petit écran-là. Et toutes ces questions-là, en fait, elles n'ont pas été vraiment pensées. Et d'ailleurs, on le regarde dans les plans numériques, en fait, hein, là, les plans de continuité, c'est des plans qui visent à penser les outils qu'on va utiliser, mais on pense pas du tout aux questions pédagogiques. Je pense par exemple à l'injonction qui avait été faite pendant le Covid liée aux injonctions ministérielles d'absolument assurer cette continuité de certains chefs d'établissement qui disaient il faut que chaque prof fasse des classes virtuelles. Sans se poser la question de ce que c'était qu'un gamin de 13 ou 14 ans qui aurait une journée de 7 heures de cours normale derrière un écran. Et ces questions-là, on n'est pas revenu dessus en fait. Alors pris aussi par le retour en classe, la nécessité de reprendre une vie normale. Et ça, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas ni capitalisé, ni pérennisé, en fait. Et j'ai bien peur que si on se retrouvait dans une situation identique dans 3 mois, je crois que malheureusement, certes, on aurait peut-être des outils, on aurait peut-être des infrastructures, mais je ne suis pas sûr que sur le plan pédagogique, on ait beaucoup, beaucoup avancé.
Merci beaucoup pour vos réponses. Vous venez d'écouter Cas d'école, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dans un hors-série consacré à la journée d'études, la crise sanitaire à l'école et à l'université, qu'en reste-t-il 5 ans après ? Vous pouvez écouter les autres épisodes de cette série sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute, et vous trouverez aussi toutes les références sur le site ife.ens-lyon.fr/cas d'école.